Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et toutes choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint, accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même Esprit, et de jouir toujours de sa consolation, par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, donc Dieu t'a béni. Bonjour à tous et à toutes. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler un peu le charisme de la garde d'honneur ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, tout le monde est un petit peu, on connaît un petit peu les visages, mais est-ce que vous voulez, madame, non? C'est, vous avez bien en esprit un petit peu, ça va être une petite minute. Donc, le charisme de la garde d'honneur, c'est d'offrir une heure de sa journée, tous les jours la même heure, qu'on débute en priant la prière de l'heure de présence. Donc, on se branche en esprit sur la présence eucharistique, donc au tabernacle, et on dit à Jésus que tout ce qu'on va faire cette heure est offert à son cœur pour le consoler d'abord de notre péché, de notre ingratitude et celle de l'humanité. Donc il ne s'agit pas de faire une heure de prière, mais une heure d'offrande. Donc si vous êtes au travail, si vous êtes en mère de famille à faire la cuisine, bah, vous offrez à faire votre cuisine tout en étant en union avec Jésus. Et par exemple, quelqu'un téléphone, vous décrochez le téléphone à ce moment-là, bah, vous offrez votre coup de téléphone. Et en fait, compte dans la démarche de la garde d'honneur, c'est prendre conscience que le Seigneur mendie notre amour dans tout ce que nous faisons. Et c'est pas autant, à moins d'une grâce particulière, de penser, on va dire pendant toute l'heure, sans interruption à Jésus, que de lui donner de l'amour dans ce qu'on fait. Si vous arrivez à penser à Jésus pendant toute votre heure, alléluia, on est en carême. Mais ceci dit, le mieux c'est quand même, c'est l'amour qui donne de la valeur à ce que nous faisons. D'accord? Voilà, c'est pas un péché si on oublie son œuvre. On supplée à un autre moment quand on y pense. Hein, voilà. Alors après, les gardonneurs qui sont de vieux gardonneurs qui ont l'habitude, eh bien, ils vous disent qu'ils ont mis ça en place pour toutes les heures de la journée. Et on essaie de garder la présence, l'attention à sa présence, une attention amoureuse à sa présence dans tout ce qu'on fait, quoi. Hein. C'est ça qui rend heureux. Moi, j'appelle ça la sainteté indolore. C'est-à-dire que le fait de penser à Jésus dans notre quotidien le plus qu'on peut, on se rend compte que sans trop le sentir, alors évidemment il y a des passages des fois un peu plus douloureux, mais le Seigneur se communique et puis il nous transforme, il change notre façon de voir, notre façon de faire. Et ça se fait des fois à notre insu. Avec recul, on dit, tiens, bah oui, je suis plus patiente, je prends les choses différemment, je suis plus ouverte, je me tiens plus facilement en retrait dans une conversation, en silence. Des fois, j'aurais tendance à toujours vouloir boucher le trou, enfin, une cheville à chaque trou. Et là, en fait, compte, je me tiens plutôt en retrait plus facilement. Et ça, c'est l'union à Dieu, hein, qui nous visite, qui nous apaise, et ça se fait, c'est ça qui est beau, hein, c'est vraiment la règle de l'attention amoureuse, les fruits de l'attention amoureuse. Voilà. Alors donc aujourd'hui, je vous avais laissé, il n'y a pas de questions, c'est bon, j'étais claire. Donc je vous avais proposé, en cette année qui lui est consacrée, d'étudier le grand Saint Joseph, parce que d'une part, le 8 décembre 2020 commençait une année consacrée à Saint Joseph pour fêter le 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Et le pape, pour l'occasion, écrit une lettre apostolique Patris Cordae que je vous conseille de lire. Elle n'est pas épaisse. Et à la visitation, nous avons plus d'une raison de nous réjouir. C'est Sainte Jeanne de Chantal, notre sainte fondatrice, l'appelait ce cher saint que notre cœur aime. Elle faisait un pèlerinage tous les jours à l'une de ses images et le prenait dans ses voyages pour compagnon. Ça, c'est quand elle va être fondatrice, à la mort de notre saint fondateur, elle va visiter toutes les fondations et donc à chaque fois, elle part avec Saint Joseph. C'était l'intention, dit-elle, de notre bienheureux Père, que toute notre congrégation eut une dévotion particulière à ce saint et qu'on en célébrera dignement sa fête. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire hier. Et puis notre sainte sœur, Sainte Marguerite Marie, elle place sur le même plan la dévotion à la très sainte Vierge Marie et la dévotion à Saint Joseph. Quoiqu'il ne soit pas souvent fait mention du Père nourricier de Jésus dans les écrits qui nous restent de la servante de Dieu, il est certain qu'elle unissait dans un même amour Marie et Joseph. Alors voilà ce qu'elle disait, « La Sainte Vierge sera ma bonne mère, disait-elle, et j'aurai Saint Joseph pour protecteur. » Et puis, dans l'un des premiers tableaux du Sacré-Cœur, peint sous l'inspiration de Sainte Marguerite Marie, il y a au bas la Sainte Vierge d'un côté et Saint Joseph de l'autre. Donc il était présent dans sa spiritualité. Et puis notre saint fondateur va lui consacrer un chapitre de ses entretiens. Et puis on va le retrouver et on va le voir aussi la présence de Saint Joseph dans le troisième entretien qui s'appelle la fermeté. Et c'est celui-là que je me propose de voir avec vous aujourd'hui. Et puis il faut savoir aussi que Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernau, la fondatrice de la Garde d'honneur, lui écrivait une lettre à Saint Joseph. À chacune de ces fêtes. Alors moi j'avoue, pour le petit Fioretti, depuis que je suis supérieure, c'est ce que je fais. Je lui écris une petite lettre que je glisse sous la statue de Saint-Joseph dans le jardin. On a des petits oratoires, des petites chapelles. Et du coup, quand on va avec la communauté faire notre dévotion, prier Saint-Joseph, là on a confié toutes les familles de l'humanité, eh bien je dépose ma petite enveloppe. Alors, ce qui est très beau, c'est que l'année précédente, avant de déposer, par exemple là, la lettre que j'ai déposée, j'ai regardé celle que j'avais déposée l'année précédente. Comme dit la grande Sainte Thérèse, si vous demandez quelque chose au jour de sa fête, il vous exaucera. Alors, c'est pas, le miracle doit vous dire votre foi. Hein. Et il y a beaucoup de Fioretti au sujet de l'intercession de Saint Joseph. On dessine quelque chose pour ce qu'on en a besoin, on dépose cette image du dessin sous la statue de Saint Joseph et on dit vraiment Saint Joseph, voilà, je vous attends, j'ai vraiment besoin, parce que en faisant la démarche on sait qui va répondre, et dans les Fioretti on sait qu'à chaque fois Saint Joseph se contente de vous exaucer d'après le dessin que vous avez fait. Donc si vous avez demandé un âne, vous avez dessiné un âne sans queue, l'âne vous arrive sans queue. Donc, moi, je trouve ça super beau, je vous dirais. C'est l'intercession, la manière dont les saints vivent avec nous. Donc, voilà pour la petite histoire. Alors, les entretiens de notre saint fondateur sont donc écrits, sont un recueil de conférences adressées par Saint François de Sales aux religieuses de la Visitation. On peut le trouver sur Internet, la totalité. Là, moi, je vous ai fait la photocopie de ceux qu'on va étudier. Et puis, comme ça, qui pourront vous rester sous les yeux dans votre quotidien. Pendant plus de 2 ans, juin 1610, octobre 1612, le théâtre de ces entretiens fut à Annecy, la maison de la galerie. Donc, c'est le premier monastère, on va dire, à Annecy. C'est là où notre sainte mère avec 2 autres sœurs se sont enfermées pour la première fois. Et les vergers qui l'entouraient. L'auditoire, un petit groupe d'âmes d'élite, 3 au début, 8 à la fin de la première année, 10 au bout de la seconde. Ces âmes que l'appel divin avait saisies pour la plupart au milieu de positions brillantes selon le monde, n'avaient d'autre ambition que de se plonger dans l'obscurité, la pauvreté, le silence et l'immolation, de se faire oublier de la terre pour communiquer plus librement avec le ciel. La Providence leur avait donné en la personne de Saint François de Sales un maître capable de développer de telles aspirations. Toutes le vénéraient comme un ange de Dieu et n'avaient pas moins de confiance en son dévouement que de foi en sa sagesse. Toutes étaient assez humbles pour réclamer les notions élémentaires de la vie spirituelle, assez éclairé pour en goûter les enseignements les plus sublimes. De son côté, notre saint paraissait au milieu d'elle moins comme un législateur qui impose des lois que comme un père qui apprend à ses enfants à essayer leurs pas. C'était donc de part et d'autre une douce intimité, c'était un abandon filial qui n'enlevait rien au respect, une bonté paternelle qui n'excluait pas la fermeté. Le saint fondateur, nous osons le dire, remplissait littéralement les fonctions de maître des novices. Aucun incident ne se produisait dans la communauté naissante qu'il en fût aussitôt instruit. Aucun doute ne s'élevait qu'on ne lui en demandât la solution. Son inépuisable charité encourageait cet incessant recours. Il y trouvait non point une surcharge, mais un délassement de ses autres travaux. Ce qui fait que on a donc beaucoup décrit des origines, des débuts des premières mères. Et donc toutes les difficultés qu'elles vont rencontrer au quotidien, ça va lui être soumis. Et donc c'est entre autres le recueil des entretiens. Parce qu'il y a une sœur qui va avoir un don d'enregistrement de mémoire et qui sera capable, à la lettre près, de redire tout ce qu'elle avait entendu notre fondateur. Alors c'est sûr, on l'imagine bien parmi ses filles dans les vergers, voilà, les premières mères assises à ses genoux et puis leur posant leurs questions, parce que voilà, c'est une grande aventure, la vie religieuse, mais aussi entre autres la vie spirituelle. Quand la communauté est devenue plus nombreuse dû quitter l'étroite demeure du faubourg pour habiter en ville, les conférences se continuèrent dans la maison provisoire, puis au parloir du monastère, avec autant d'aimable simplicité que sous les ombrages de la galerie. Alors donc, notre saint fondateur ira les visiter 2 à 3 fois la semaine, et pendant que la sainte fondatrice, notre sainte mère, presse notre bienheureux père de rompre abondamment le pain de la divine parole, elle recommande à toutes ces communautés de se nourrir des miettes qui leur en sont transmises. Donc elles auront, tous les monastères et encore aujourd'hui, sur toute l'année, on lit au réfectoire les entretiens. Faites fort lire l'entretien des règles et tout ce que l'on a de Monseigneur, écrit-elle à la mère de Châtel. Je ne trouve rien de tel pour nourrir l'esprit de la maison. Et à la mère de Monteloup, attachez-vous invariablement à la règle, aux conseils qui sont dans les entretiens. Lisez-les fort et les faites lire aux filles. Tous les mois, j'en fais lire 1 ou 2 à table. À la mère Favre, nous sommes tant pleines des instructions de Monseigneur qu'il ne saurait quasi rien arriver qu'il ne s'en trouve la résolution dans les entretiens. Vivons de notre pain, c'est le meilleur pour nous, et encore, il y a dans les entretiens de Monseigneur tout ce qui se peut désirer pour la perfection. Cette doctrine est admirable. Donc c'est à ce titre que je comptais donc partager quelques passages, quelques extraits des entretiens, parce que c'est du pain chez nous et il n'y a rien de mieux pour comment dirais-je, nourrir notre cœur, notre intimité avec Jésus. Alors, si notre saint fondateur écrit l'entretien 20e pour le jour de Saint Joseph, il en fait aussi mention dans celui de la fermeté, le 3e entretien, plus exactement une prédication de Monseigneur pour l'octave des innocents. Et la note dit, c'est la note donnée par le manuscrit. En effet, nous n'avons pas ici un entretien fait au parloir où les religieuses posaient des questions à leur saint fondateur, mais un serment prononcé à la chapelle. Alors, je me propose de le lire, vous allez pouvoir suivre sur votre feuille. Alors, Madame Damien qui vient d'arriver, vous en avez juste une derrière nous. Chacun fait comme il peut. Je me veux faire entendre plus familièrement. La plupart des personnes du monde se laissent gouverner et conduire par leur passion et non à la raison. Aussi sont-ils pour l'ordinaire bizarres, variants, et changeant en leur humeur. S'ils ont une passion de se coucher de bonne heure, ils le font. Si de se coucher tard de même, ils ont une passion d'aller au champ, ils se lèvent au matin. S'ils en ont une de dormir, ils le font. S'ils veulent dîner tard ou tôt au déjeuner, ils le font. Et non seulement ils sont bizarres et inconstants en cela, mais ils le sont même en leur conversation, s'accommodant à l'humeur de ceux qu'ils veulent et non aux autres. Ils se laissent emporter à leurs inclinations, affections particulières et passions, sans que pour autant on estime communément cela être vicieux entre les mondains. Et pourvu qu'ils n'incommodent pas beaucoup l'esprit du prochain, on ne les tient pas pour bizarres et inconstants. Et pourquoi cela ? Non pour autre, sinon parce que c'est un mal ordinaire parmi les mondains. Mais en religion, on ne peut se laisser du tout, tout emporter à ses passions, d'autant que quant aux choses extérieures, les règles y sont pour nous tenir réglées ou prier ou manger et dormir, et ainsi des autres exercices, toujours à la même heure, quand l'obéissance ou la cloche nous le signifie. Ça, c'est nous. Il faut toujours n'avoir qu'une même conversation, car on ne se peut séparer. En quoi donc exerce-t-on la bizarrerie et inconstance ? C'est en la diversité des humeurs, des volontés, des désirs. Maintenant, je suis joyeux parce que toute chose me succède selon ma volonté. Tantôt, je serai triste parce qu'il me sera arrivé une petite contradiction que je n'attendais pas. Mais ne savez-vous pas que ce n'est point ici le lieu où le plaisir se trouve pur, sans mélange de déplaisir, que cette vie est mêlée de semblables accidents ? Aujourd'hui, que vous avez de la consolation à l'oraison, vous êtes encouragé et résolu de bien servir Dieu. Mais demain que vous serez en sécheresse, vous n'aurez point de cœur pour les services de Dieu. Mon Dieu, je suis si alangouri et abattu, dites-vous. Dites-moi un peu si vous vous gouvernez par la raison. Ne verriez-vous pas que c'était bon de servir Dieu hier, qu'il sera très bon de le servir aujourd'hui? Et c'est toujours le même Dieu, aussi digne d'être aimé quand vous êtes en sécheresse que quand vous êtes en consolation. Maintenant, nous voulons une chose, et demain, nous la voudrons plus. À cette heure, ce que je vois faire à un tel ou une telle me plaît. Tantôt, cela me déplaira, de telle sorte que cela sera capable de me faire concevoir de l'aversion. J'aime une personne maintenant, et me plaît grandement en sa conversation. Demain, j'aurai peine de la supporter. Et qu'est-ce que veut dire cela ? N'est-elle pas autant capable d'être aimée aujourd'hui qu'elle était hier ? Si nous regardions à ce que nous dit la raison, qui est qui ne la faut aimer sinon parce que c'est une créature qui porte l'image de la divine majesté, nous aurions autant de suavité en la conversation que nous en avions eu d'autres fois. Mais cela ne provient sinon de quoi nous nous laissons conduire à nos inclinations, à nos passions ou à nos affections, pervertissant ainsi l'ordre que Dieu avait mis en nous, que tout serait sujet à la raison. Car si la raison ne domine sur toutes nos puissances, nos facultés, nos passions, nos inclinations, nos affections, et enfin sur tout ce qui est de nous, qu'arrivera-t-il sinon une continuelle vicissitude, inconstance, variété, changement, bizarrerie, qui nous feront être tantôt en courage et un peu après lâches, négligents et paresseux, tantôt joyeux et puis mélancolique. Nous serons tranquilles une heure et puis inquiets de jour. Bref, notre vie se passera en feignantise et perte de temps. La paraison, c'est bien décrit, hein ? Sur ce premier point, donc, nous sommes incités et semons à considérer les inconstances et variétés des succès. Tant est-ce chose temporelle qu'est-ce chose spirituelle, afin qu'en l'événement des rencontres qui pourraient effaroucher nos esprits comme étant chose nouvelle et non prévue, nous ne perdions point courage et ne nous laissions point emporter à l'inégalité d'humeur parmi l'inégalité des choses qui nous arrivent. Que soumis à la conduite de la raison que Dieu a mise en nous, nous demeurions fermes, constant et invariable en la résolution que nous avons faite de servir Dieu constamment, courageusement, ardemment et hardiment, sans discontinuation quelconque. Si je parlais devant des personnes qui ne m'entendissent pas, je tâcherais de leur inculquer du mieux qu'il me sera possible ce que je viens de dire. Mais vous savez que j'ai toujours tâché de vous inculquer bien avant dans la mémoire cette très sainte égalité d'esprit. Et ça, si on s'interroge, c'est pas si facile que ça. comme étant la vertu la plus nécessaire et particulière de la religion. C'est à quoi ont visé plus particulièrement tous les anciens pères des religions, à faire que cette égalité et stabilité d'humeur et d'esprit régna dans leur monastère. Moi je rajoute, on a tous un petit monastère en soi. Hein. Et notre saint fondateur dit que le maître, c'est notre orgueil. Donc Et d'esprit régna dans leur monastère, et pour cela ils ont établi les statuts, constitutions et règles, afin que les religieux s'en servissent comme d'un point pour passer de la continuelle égalité des exercices qui y sont marqués et auxquels il se faut assujettir, à cette tant aimable et désirable égalité d'esprit, parmi l'inconstance et inégalité des accidents que nous rencontrons au chemin de tant de notre vie mortelle que de notre vie spirituelle. Le grand saint Chrysostome dit « Écoute ô homme qui te fâche, de quoi toute chose ne te succède pas comme tu voudrais. As-tu point de honte de voir que cela que tu voudrais ne s'est pas même trouvé en la famille de notre Seigneur ? Considère, je te prie, les changements et vicissitudes et la diversité des succès qui s'y rencontrent. Notre-Dame reçoit la nouvelle qu'elle concevra du Saint-Esprit un fils qui sera notre Seigneur et Sauveur. Quelle joie, quelle jubilation pour elle en cette heure sacrée de l'incarnation du Verbe éternel. Un peu après, Saint-Joseph s'aperçoit qu'elle est enceinte. Il savait bien que ce n'était pas de lui qu'elle l'était. Ô Dieu, quelle affliction, en quelle détresse ne fut-il pas ? Et Notre-Dame, quelle extrémité de douleur et affliction ne ressent-elle pas en son âme, voyant son cher époux sur le point de la quitter, sa modestie ne lui permettant pas de découvrir à Saint Joseph l'honneur et la grâce dont Dieu l'avait gratifié. Alors on va laisser l'autre partie pour peut-être la prochaine fois, en sachant qu'il y a le week-end entre, mais on va d'abord aborder, je vais utiliser ce passage. Donc cette variété, ce mouvement intérieur dans lequel on peut des fois être pris comme dans un tambour de machine à laver, avec ses contresens hein, lié à à ce manque que la raison ne domine pas notre volonté. Et aujourd'hui, on est dans un monde très mu par tout ce qui est sensuel, tout ce qui est sensible. Là, notre saint fondateur nous rappelle une règle d'or. Hein. Mais si vous voulez, même si, sans parler du sensible, des fois ça nous arrive dans notre vie spirituelle de se dire, aujourd'hui, faudrait que je dise mon chapelet, je ne l'ai pas dit. Parce que là, il vient au sujet du service de Dieu, mais pas uniquement, hein, ça peut être aussi matériellement, la cause matérielle de nos vies. Par exemple, on passe son temps à acheter parce qu'on est toujours insatisfait. Et la raison doit dominer notre manière de concevoir les achats. Et du coup, pour le service de Dieu, normalement, je dois. En tout cas, en début de carême, je m'étais dit je prierai mon chapelet tous les jours. Je peine un peu aujourd'hui, je me sens moins. J'ai pas envie, quoi. Notre saint fondateur vient apporter. Si j'attends d'en avoir envie, comme il le dit, hein, ce balancement, la raison doit dominer, quoi. Donc c'est en ça que ça peut nous apporter quelque chose de précieux. Et puis là, à la fin de l'extrait, notre saint fondateur aborde la souffrance de saint Joseph. Il faut qu'on imagine quand notre saint Joseph va découvrir que Marie est enceinte et qu'il sait très bien que c'est pas de lui. Le qu'en dira-t-on, faut pas imaginer que, parce que ça c'est propre à chaque homme malheureusement pécheur, la critique, tout ce qu'on a pu dire, hein. Et je voudrais citer un passage du coup de Patrice Cordet, La grandeur de Saint Joseph, donc l'encyclique, la lettre apostolique du pape. La grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se mit au service de tout le dessein salvifique. Et quand il dit tout le dessein, ça comporte aussi cette part de calomnie hein, qui a dû le faire souffrir, parce qu'on l'appelle le juste, donc il était saint. Saint Paul VI observe que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation. Voilà, donc il a fallu qu'il paye, hein, et à la mission rédemptrice qui est jointe, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur, de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. Et la confiance du peuple en Saint Joseph est résumée dans l'expression « It Ade Joseph » qui fait référence au temps de la famine en Égypte, quand les gens demandaient du pain au Pharaon, il répondait « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Et c'est un petit peu ça que je vous propose à chaque fois, c'est de se dire, ben voilà, je me trouve devant quelque chose, par exemple, voilà, je me sens comme le roseau, voilà, qui plie en fonction de ce que je ressens, de ce que j'ai envie, ou de ce que la famille de ma voisine me montre, et du coup, moi aussi, j'ai envie des mêmes choses. Et du coup, allons trouver Saint Joseph et on fera ce qu'il nous dira. Il s'agit donc de voir à travers cette intercession de Saint Joseph, dans cette souffrance qu'a connue Saint Joseph de la calomnie, sachant qu'elle était enceinte mais pas de lui. On va aborder du coup dans l'introduction à la vie dévote, donc un autre texte de notre saint fondateur, comment conserver la bonne renommée sans blesser l'humilité. Penser que nous pourrions exceller sur les autres ou leur être préférés est contraire à l'esprit d'humilité. Par conséquent, l'humilité nous interdit de rechercher les louanges, les honneurs ni la gloire, puisque tout cela n'est dû qu'à l'excellence. Pourtant, l'humilité souscrit à l'enseignement du sage qui nous incite, donc c'est Ben Sira, à avoir soin de notre renommée. Parce que la bonne renommée procède non pas de l'excellence où nous tiendraient les hommes, mais d'une certaine rectitude et intégrité de vie que l'esprit d'humilité nous empêche pas de reconnaître en nous. Donc ça, c'est important de soigner ça. Par conséquent, l'humilité ne nous empêche pas non plus d'en désirer la réputation. Il est vrai que l'humilité mépriserait la renommée si la charité n'était pas en cause. Mais il se trouve que la renommée est l'un des fondements de la société humaine. Sans la renommée, nous ne pourrions pas être utiles à la société. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que, voilà, je m'en fiche. Ben non. Nous pourrions même lui nuire en raison du scandale que nous causerions. Par conséquent, la charité demande et l'humilité permet que nous désirions une bonne renommée et que nous y veillions précieusement. Donc on imagine combien ça a dû coûter, le prix qu'a dû coûter à Saint Joseph. D'une façon générale, en matière d'injures ou de calomnies, donc ça, on n'en est pas à l'abri, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on peut balancer sur Internet, en prenant une photo d'un tel, enfin, moi des fois j'entends ça, et puis telle situation, tac, on fait courir des tas de choses qui sont... Mais comme c'est écrit sur Internet, voilà ce qu'on entend, eh bien c'est vrai quoi. Ben non, pas obligatoire, mais par contre on a sali quoi. L'oubli les fait s'évanouir. Remède plus efficace que la rancune, la dispute ou la vengeance. Si l'on s'en offusque, il semble qu'on en avoue le bien fondé. Les crocodiles ne font pas du mal qu'à ceux qui les craignent et la médisance à ceux qui s'en inquiètent. Alors là, c'est sûr hein, que quand on est sali, on sait qu'on dit des choses sur nous dans le monde, enfin voilà, dans nos familles, on nous prête des intentions qui ne sont pas les nôtres. C'est clair que ça fait très mal. Mais, donc, comme dit notre saint fondateur, il faut, pour qu'elles s'évanouissent, il faut les oublier. Donc c'est, on va dire, facile à dire, mais c'est autre chose à faire. La petite recette, c'est, on y revient toujours, le fondement de la garde d'honneur, c'est l'union à Jésus. Hein. Quand vous êtes dans votre heure de présence, vous essayez de faire les choses unies à Jésus. Quand ça remonte, quand voilà, vous vous rappelez telle personne qui a dit ça, ou on vous a dit qu'un tel dit ça de vous, etc. Eh bien, tout de suite, pour les oublier, je vais m'unir à Jésus. Donc, je regarde pas la médisance, je regarde Jésus, je reste fixée sur lui et je dis à Jésus que je l'aime. C'est une façon, en tout cas, de répondre à l'oubli pour qu'elle s'évanouisse. La crainte excessive de perdre sa renommée montre encore que l'on est peu sûr de son fondement. Quand on rentre dans une justification, c'est clair que ce qui est dit sur nous est peut-être vrai. Qui est la vérité, qu'on est peu sûr de son fondement, qui est la vérité d'une bonne vie. À la moindre crue, les villes qui ont des ponts en bois craignent qu'ils ne soient emportés. Mais celles qui les ont en pierre ne s'inquiètent que pour les inondations exceptionnelles. Ainsi, ceux qui ont une âme solidement chrétienne ne prêtent pas attention aux propos injustes. Mais les faibles s'en inquiètent. Voyez, qui veut plaire à tout le monde ne plaira à personne. Quant à celui qui veut tenir son honneur de ceux que les vices déshonorent, il mérite de perdre celui qui l'a. La réputation n'est qu'une enseigne qui fait savoir où se tient la vertu. Une manière de vérifier. Hein. C'est donc la vertu et non l'enseigne qui, à tout égard, doit être préférée. Si l'on vous dit « vous êtes hypocrite » simplement parce que vous essayez de vivre en chrétienne, si l'on vous tient pour poltron parce que vous avez pardonné une injure, moquez-vous de tout cela. De tels jugements sont le fait de nigauds. Devriez-vous en perdre votre renommée? Ne quittez pas la vertu, ne vous détournez pas du bon chemin. Il faut préférer les fruits aux feuilles, c'est-à-dire le bien intérieur et spirituel, à tous les biens extérieurs. Soyons jaloux de notre renommée, mais non pas idolâtres. Voilà. Et c'est là que ça, qu'aujourd'hui on est plutôt placé là-dedans. De même qu'il ne faut pas scandaliser les bons, il ne faut pas chercher à plaire aux malveillants. La chevelure embellit le visage de la femme comme la barbe celui de l'homme. Si l'on arrache jusqu'à la racine le poil du menton ou les cheveux de la tête, ils ne repousseront pas. Mais si on les rase ou les coupe, ils repousseront vite, plus drus et plus fournis. Il en est ainsi de la renommée. Qu'elle soit coupée ou même rasée par les mauvaises langues, que David compare à des rasoirs effilés, il ne faut pas s'en inquiéter, elle repoussera encore plus belle. Mais si ce ne sont nos vices, nos défauts, notre mauvaise vie qui perdent notre réputation, il lui sera bien difficile de se rétablir, parce que c'est dans ses racines qu'elle a été arrachée. C'est bien vu, hein? Or, les racines de la renommée, ce sont la bonté et l'intégrité. Si ces racines sont en nous, l'honneur d'une bonne renommée nous sera rendu. La vérité finit toujours par se faire. Mais si on cherche à se défendre par nous-mêmes, c'est perdu. Par contre, et ça peut, c'est pas, je qu'au début de la fondation, on a beaucoup critiqué notre saint fondateur et on disait de lui qu'il montait un harem. Donc c'était pas très glorieux quoi. Eh bien, notre sainte mère, elle était pas contente. Hein. Et notre saint fondateur disait, laissez aboyer quoi, enfin laissez faire quoi. Et puis quand on voit aujourd'hui, voilà, ça a porté ses fruits quoi. Il faut laisser là les conversations oisives, les mondanités, cette amitié dangereuse, cette fréquentation douteuse, si cela porte tort à la renommée. Car la renommée vaut mieux que toutes ces petites satisfactions qui ne mènent à rien. Mais si vos pratiques religieuses, votre vie de prière auxquelles vous vous livrez pour avancer en vraie dévotion et vous rapprocher de Dieu, suscite murmures et calomnies, laissons les chiens aboyer à la lune. Vous laissez braire. Les mauvaises langues pourront bien monter quelques mauvaises opinions contre votre réputation, c'est-à-dire, pour reprendre notre comparaison, raser les cheveux et la barbe de notre renommée, mais elle ne manquera pas de repousser et le rasoir de la médisance aura finalement servi à notre honneur, comme la serpe sert à tailler la vigne qu'elle fait fructifier en de multiples grappes. C'est sûr, je ne sais pas si ça vous est arrivé en tout cas de passer par l'épreuve de la calomnie, hein, de la médisance, c'est sûr que c'est une grosse, grosse épreuve. Hein. Mais quand on est dans cette démarche de bénir la personne qui dit du mal de nous, donc de garder cette bonté, de ne pas chercher par ses propres moyens à se justifier, et bien donc d'être dans cette démarche de la barbe coupée mais pas arrachée, c'est sûr qu'après, devant Dieu, on est fort, hein, et on grandit en humilité. Gardons toujours les yeux fixés sur Jésus crucifié. Marchons à sa suite, confiants et simples, mais aussi prudent et avisé. Il sera le gardien de notre renommée s'il permet qu'elle nous soit enlevée. Il nous en rendra une meilleure ou bien en fera profiter notre humilité. Car une once de celle-ci vaut mieux que 1000 livres d'honneur. Si l'on nous critique injustement, opposons paisiblement la vérité. Si un jour on vous demande des comptes sur ce que vous avez fait, il faut dire la vérité. Si après on maintient, non, c'est pas ça, etc. Non, je vous ai vu faire autre chose, vous avez dit ça, etc. Faut s'incliner, faut laisser braire. Mais on a le devoir de dire la vérité, mais pas de rentrer dans une justification, rentrer en colère. Et là, on fait compte, on sert l'autre, on sert le plan diabolique. Hein, on sert la colère, et la colère n'est jamais de Dieu. Si la critique persiste, persistons dans l'humilité, remettant notre âme et notre réputation entre les mains de Dieu. Nulle part, elles ne seront mieux en sécurité. À l'exemple de saint Paul, servons Dieu par la bonne et mauvaise renommée, afin que nous puissions dire avec David, « C'est pour vous que j'ai supporté l'opprobre et que la confusion a couvert mon visage. » Il est cependant des crimes si atroces et si infamants que nul ne doit en accepter la calomnie. On a le devoir de s'en disculper si on le peut faire sans blesser la justice, comme doivent se disculper et demander calmement réparation ceux dont la réputation importe à beaucoup, ainsi que le conseil les théologiens. Donc voilà, alors on peut demander à saint Joseph, qui a vécu hein, ça, c'est justement les calomnies à travers le fait que Marie soit enceinte, mais que ce n'était pas de lui, et bien qu'il nous aide quand on est amené à se justifier, mais des fois c'est pas même d'après ses enfants par exemple par rapport à notre vie, que de plus en plus dans une même famille la pratique religieuse n'est pas vécue par tous, et comme aujourd'hui on va dire que c'est on se réduit à une peau de chagrin, et bien on nous demande des comptes sur notre manière de vivre. Pourquoi tu fais pas ça, tout le monde le fait, c'est permis. Peut-être que tout le monde le fait, mais par contre, moi, je le considère comme un péché, par exemple, de voler. C'est vrai que tout le monde le fait. Peut-être, mais moi, je ne volerai pas. Et chercher à se disculper dans la mesure où on doit dire la vérité. Puis après, comprendre qui veut comprendre, quoi. Et surtout, qui peut comprendre, quoi. Et on sait bien que c'est pas par une avalanche de paroles. C'est plus à vous tenir dans cette humilité qui est une puissance sur le cœur de Jésus. La personne en face de vous il va lui être donné l'entendement, c'est-à-dire la lumière intérieure au niveau de son esprit, peut-être pas sur le moment, mais si vous vous maintenez dans l'humilité et dans l'offrande, donc dans ce regard posé sur Jésus crucifié, peut-être dans 2 ans, peut-être dans moins, dans 2 semaines, la personne dira « Ah, j'ai compris, elle avait raison ». De me dire ça ou de faire ça. Alors, comme tout est permis, Jésus a permis on va dire, la calomnie, on va dire, il a laissé faire, d'une part pour vous faire grandir en humilité, hein, parce que là, c'est clair que quand on rentre dans l'humilité par la calomnie, c'est de l'or. Et par contre, pour la personne qui va comprendre grâce à votre humilité, elle va être touchée, ça va être un départ, un pas en tout cas, sur le chemin peut-être de la rencontre avec Jésus, quoi. Je trouve ça très très beau de voir comment le Seigneur sait utiliser un mal pour un bien. Si on rentre dans cette démarche justement de la renommée, la bonne renommée vécue, donc en reprenant l'image de notre saint fondateur, avec cette barbe qu'on coupe mais qu'on n'arrache pas. Hein. Sinon, c'est clair qu'il n'y aura pas de fruit. Hein. On va servir le plan du malin, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? On va se faire la tête, quoi. Chacun va partir de son côté, et puis en général on dit je ne veux plus revoir cette personne parce qu'elle dit ça et c'est faux. Et là, on n'a pas servi la charité. Et normalement, la renommée doit servir la charité. Voilà. Après, dans ce texte qu'on vient de lire, des extraits de notre saint fondateur sur le troisième entretien de la fermeté, eh bien, il y a comment vivre les injures et les calomnies. C'est aussi l'indifférence aux injures et calomnies. Alors, je vais vous citer un petit passage du traité de l'amour de Dieu, qui est la plus grosse œuvre de notre saint fondateur. Combien de fois avons-nous des passions en l'appétit sensuel ou convoitise, contraire aux affections que nous sentons, en même temps dans l'appétit raisonnable ou dans la volonté? Le jeune homme duquel parle saint Hiérosyme, se coupant la langue à belles dents, et le crachant sur le nez de cette maudite femme qui l'enflammait à la volupté, ne témoignait-il pas d'avoir en la volonté une extrême affection de déplaisir, contraire à la passion du plaisir que par force on lui faisait sentir en la convoitise et appétit sensuel? Combien de fois tremblons-nous de crainte entre les hasards auxquels notre volonté nous porte et nous fait demeurer? Combien de fois haïssons-nous les voluptés desquelles notre appétit sensuel se plaît, aimant les biens spirituels desquels il se déplaît? En cela consiste la guerre que nous sentons tous les jours entre l'esprit et la chair, entre notre homme extérieur qui dépend des sens et l'homme intérieur qui dépend de la raison. Entre le vieil Adam qui suit les appétits de son Ève ou de sa convoitise et le nouvel Adam qui seconde la sagesse céleste et la sainte raison. Voilà, il y a tout ce combat entre nous. Comme on dit, on a deux, on est deux, quoi. Hein. On a celui qui voudrait suivre la raison, et puis il y a celui qui est pécheur, qui est en chemin de conversion, mais qui sans cesse nous tire vers le bas, quoi. Alors, dans le traité, toujours dans son traité de l'amour de Dieu, livre 8e au chapitre 7. L'indifférence à l'égard de notre avancement dans la pratique des vertus. Et ça, c'est, je dirais là aussi, c'est encore, c'est en ça hein, que notre saint fondateur, il est grand. C'est que plein de chapitre 7, ouais, il est grand dans sa connaissance de l'âme. Je me rappelle, on avait un assistant. Donc celui qui fait le lien avec Rome et la France, que j'apprécie, il faut bien reconnaître que j'apprécie beaucoup, c'est un espagnol vraiment que j'aimais beaucoup. Alors il a fait ses 6 ans et puis maintenant c'en est un autre qui est très bien aussi, hein, mais voilà, moi on avait vécu des choses fortes ensemble, et du coup et voilà ce qu'il nous disait à la communauté à l'époque. Vous n'avez pas besoin de trouver de directeur spirituel. Vous en avez un en votre saint fondateur. Si vous lisez les écrits de notre saint fondateur, vous vous rendez compte combien il connaît l'épaisseur humaine, la patte humaine, quoi. Dieu nous a commandé de faire tout ce que nous pouvons pour avancer dans la pratique des vertus. Par conséquent, ne négligeons rien pour y parvenir. Et ça, je sais qu'on est tous un peu là-dedans. Voilà, on veut et... Donc on va pas s'épargner. Mais après avoir planté et arrosé, soyons persuadés que c'est Dieu qui fait croître l'arbre de notre bonne volonté et de nos pratiques. C'est donc de sa providence que nous devons attendre l'exaucement de nos désirs et le fruit de nos efforts. Si nous n'observons aucun progrès dans notre vie spirituelle, tel du moins que nous la voudrions, ne nous troublons pas, gardons la paix du cœur. Quand on fait des efforts et qu'on ne voit pas de fruits, on dit « Ah, tout de suite, on se tape dessus, je fais mal les choses, etc. J'y arriverai jamais, on commence à... » Alors voilà, l'autre qui arrive en courant, le malin et tous ses sbires. Et puis, voilà, on a ouvert la porte au découragement, etc. Ça veut rien dire. On juge trop vite notre état d'avancement aux fruits, à ce qu'on voit. Je sais que nous, il nous donne une règle d'or aussi, et ça c'est quand vous faites l'oraison, parce que vous la faites aussi, eh bien, jugez son oraison. À la fin de son oraison, par exemple, quand on a pris un temps de prière, on la juge. Est-ce qu'on était bien? Est-ce qu'on a bien fait oraison? C'est un piège, ça, un gros, gros piège. On a fait oraison, c'est-à-dire surtout, on s'est tenu au temps qu'on s'était donné. On a dit, alors nous, il n'y a pas de choix, c'est une demi-heure. Voilà. Mais quand vous le faites dans le monde, comme dit tout à l'heure, notre saint fondateur, ah, aujourd'hui, je me sens bien, oh, je vais faire une heure, quoi. Oh, puis non, je vais faire deux heures, parce que là, je suis en Dieu, tout ça, oh, j'ai pas du tout de distraction, tout va bien. Le lendemain, alors là, j'ai pas le moral, ça va se réduire à 5 minutes, quoi. Alors là, c'est zéro, quoi. Non. J'ai fixé pour mon programme de vie une heure, le matin et une heure le soir par exemple, ou une demi-heure. Je me tiens, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, à la demi-heure ou à l'heure. C'est comme ça qu'on doit juger notre oraison. Pas, oh, j'étais bien en Dieu, je me suis bien recueillie. Notre Sainte Mère dit que peut-être à votre oraison, vous aurez passé votre temps à vous battre avec des pensées inutiles, vous aurez mieux fait oraison que si vous aviez le cœur tout chaud, ou là, vous vous êtes recherché dans le sentiment, dans la satisfaction. Et c'est pas faire bonne oraison. Pourquoi? Parce que l'oraison est bonne, pas de votre côté, mais du côté de Dieu. Donc, c'est pour Dieu, faire bonne oraison, c'est lui donner du temps. Pourquoi? Pour vous parler, pour vous changer. Mais pas vous, pour vous dire, « Ah, j'ai passé un beau moment. » C'est pas ça l'oraison. C'est se mettre en disposition pour que Dieu puisse vous torturer. Voilà, vous transformez en un autre Jésus, quoi. Alors, enfin voilà, je pense que c'était nécessaire. C'est à nous, certes, qu'il revient de bien cultiver la terre de nos âmes et de nous en occuper sérieusement. Mais quant à la récolte et à la moisson, laissons-en le soin à notre Seigneur. On ne reprochera jamais au laboureur d'avoir fait une maigre récolte. Mais on pourra lui reprocher de n'avoir pas bien labouré ou ensemencé ses terres. Par conséquent, pas d'inquiétude si nous nous trouvons toujours novices dans la pratique des vertus. Au monastère de la vie dévote, okay, on y est tous, hein, c'est pas obligatoirement parce qu'on a un voile, vous y êtes aussi. Nous sommes toujours novices et c'est là où l'orgueil vient se glisser. On aimerait tellement être professe, voilà. Ah, ça y est, j'ai passé une étape. Maintenant, je sens que je suis mieux, j'assure mieux. Je comprends mieux maintenant ce que c'est que l'oraison. Tant mieux pour vous, quoi. Moi, je sais. Tous les jours, c'est une aventure, quoi. Et nous avons toute la vie pour faire nos preuves. D'ailleurs, si nous tenions déjà pour des prophètes, ce serait la marque évidente que non seulement nous ne sommes pas encore. Là, notre saint fondateur, il est dur, entrer au noviciat, mais que nous mériterions d'en être renvoyés. Voilà. Dans ce monastère-là, ce n'est pas la cérémonie des vœux qui compte pour la profession, mais leur pratique effective, voilà, sans sentir. Or, alors, il ne faut pas nier qu'on est marqué par notre société, qui met vraiment en exergue le sentiment, la sensibilité. Et ça, il faut dire oui au fait de faire fi au sentiment pour l'oraison, pour la vie en Dieu, pour toutes nos pratiques, quand on fait des petits sacrifices par amour, quand on fait notre heure de présence jour après jour, et que voilà, on n'a pas senti grand-chose, ou au contraire, pendant notre heure de présence, ça a été la catastrophe, quoi. On n'a rien réussi, on nous a renvoyé que des pics. Eh bien, faut accepter qu'on ne va pas vérifier que Jésus était content. Jésus, il est content de nous parce qu'on lui a donné du temps. On lui a dit qu'on l'aimait, mais il faut accepter de ne pas attendre un retour sensible de lui. Et c'est là le piège, aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus, on attend, parce que c'est dur, la vie est dure. Et la vie spirituelle, c'est dur, on le disait encore ce matin, c'est dur de suivre Jésus. Donc on attend, on va dire, des petits signes sur la route qui nous disent que Jésus est content de nous. Et je pense que c'est là-dedans qu'il nous faut travailler, mais vous comme moi, ne pas vivre notre heure de présence ou accepter de suivre Jésus sur la croix en cherchant un aval de lui, quoi. On sait, parce qu'il nous l'a dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et nous, on attend tous les jours qu'il nous le redit. Mais il nous le redit tous les jours en la Sainte Eucharistie. Donc il y a une part de nous qui doit mourir à notre attente, en somme. Et quand on aura accepté ça, je suis Jésus, je vis mon heure de présence sans rien attendre, que Jésus me confirme que j'ai bien fait, je suis sûre à 99% que vous aurez la réponse. Jésus sera content. Parce qu'on n'attend rien. Et du coup, Jésus pourra donner. Du coup, quand on n'attend rien, on est ouvert. Quand on attend quelque chose, on suppute déjà quelque chose. Donc, la porte, il s'est occupé, on va dire. Donc, Jésus va dire, je voudrais te parler, mais t'es occupé sur la ligne. C'est occupé, la ligne, quoi. Donc, non. Par contre, si on est dans cette démarche, je cherche rien, je fais mon devoir d'amour, vous aurez la réponse. Je suis sûre qu'au fond de vous, vous saurez que Jésus est content. Or, les vœux ne seront jamais parfaitement accomplis tant qu'il restera quelque chose à faire pour leur observance. L'obligation de servir Dieu et de progresser dans son amour durera jusqu'à notre mort. Donc il ne faut pas attendre là aujourd'hui, ça y est, je suis arrivée. Non, notre Saint Donateur dit, tous les jours, il s'agit de recommencer. Et là, comme nous, on n'est pas très persévérants, parce qu'il ne faut pas nier, on est dans un monde où, clac, on appuie sur le bouton, tchac, ça y est, on a tout de suite. On veut quelque chose, hop, on fait un crédit, on a tout de suite l'argent. Même si vous êtes à découvert, on vous prête de l'argent. Bon, je ne sais pas comment ils font, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on a tout de suite tout ce qu'on veut, on l'a. Et dans notre vie spirituelle, il ne faut pas nier, ça va se ressentir. Mais dira-t-on, si je reconnais que c'est par ma faute que je n'avance pas dans la pratique des vertus, comment pourrais-je ne pas m'en attrister ni m'en inquiéter ? Je l'ai déjà expliqué dans l'introduction à la vie dévote, dit notre saint fondateur. Mais j'y reviens volontiers, car on ne le dira jamais assez. Bon, c'est bien vrai. Des fautes que nous avons commises, nous devons nous en attrister, ça c'est clair. Nous repentir, d'un repentir fort, constant, franc. Cependant, il doit être paisible, et ça c'est la touche salésienne. Il ne s'agit pas de se prendre un gourdin avec la faute qu'on a commise et se taper dessus. Le saint fondateur ne veut pas ça. Elle doit être paisible, sans inquiétude, ni découragement. Reconnaissez-vous que votre lenteur dans le progrès de la vertu est de votre faute ? Alors, humiliez-vous devant Dieu, implorez sa miséricorde, appelez-en à sa bonté, demandez-lui pardon, confessez votre faute, et criez-lui « miséricorde » à l'oreille de votre confesseur pour qu'il vous donne l'absolution. Après tout cela, reconnais simplement la misère qui est en vous et que vous freinez sur le chemin du bien. Vous avez détesté votre péché. Maintenant, demeurez en paix. Et moi, je rajoute, dans son plan divin, dans son plan providence, le Seigneur va jusqu'à permettre notre péché pour avoir la joie de nous faire miséricorde. Mais par contre, nous, quand on ne comprend pas ce que c'est que la miséricorde, quand on voit qu'on a ralenti sur le chemin et qu'on est des orgueilleux finis, on prend le péché et on se tape avec. Voilà. On fait le jeu du malin et on empêche surtout au Seigneur de nous envahir de sa miséricorde, donc du coup, de nous donner des forces, que n'oublions pas, la confession c'est quoi ? C'est recevoir la grâce de ne pas retomber dans son péché, dans lequel on est tous les mêmes, on a toujours les mêmes listes. Voilà. Donc c'est pas de se dépiter, je dis toujours les mêmes péchés, je m'humilie avec douceur, dit notre Saint Fondateur. Et puis, je donne à Jésus la joie, sincèrement, de me pardonner. Et de pardon en pardon, vous recevez des forces pour ne pas retomber dans le péché. Alors que si on faisait l'inverse, à chaque fois qu'on tombe, on prend le gourdin et on se tape dessus, moi la première, hein, on va nécroser notre cœur, enfin notre cœur il va devenir tout petit, tout noir, et puis on va plus croire en sa miséricorde. Si on freinait sur le chemin, ben là on recule. Donc c'est tout l'inverse de ce qui va se produire. Mais par contre, l'attitude pour s'humilier et croire en sa miséricorde qui va jusqu'à permettre le péché. Et si on regarde sur certains témoignages de grands pécheurs, il a des fois permis des crimes affreux parce que rien ne se fait sans sa permission. Et quand on voit les fins que ça donne, on dit mais heureuse faute quoi. Non, c'est vrai. Quand on voit le chemin que ça peut donner. Mais c'est pas la même logique, je l'avais dit hier, la dernière fois. On n'est pas dans la même logique, dans le même langage que Dieu. Nous, on ne voit pas plus loin que notre bout du nez. Lui, il voit bien que par le chemin de chute en chute, et puis de pardon en pardon, lui, il voit vers quoi et vers qui vous vous acheminez. Hein. Nous, on voit, ben voilà, je suis encore tombée. Voilà. Mais il faut beaucoup de confiance en l'amour de Dieu pour se relever et dire à Jésus, allez, je m'humilie et je crois en toi pour la prochaine fois. Et c'est en ça que la difficulté agit. C'est faire confiance alors que ma faute me renvoie à moi-même que la misère. Mais notre Saint Fondateur dit que le trône de sa miséricorde, c'est la misère. Voilà. C'est notre misère. Alors, bon, je termine, j'ai presque fini. Non. Ah oui, bon, non, ça fait trop. Bon, ouais, il faut que je tienne les horaires. Je les ai tout à l'heure. Parce qu'après, même si le couvre-feu, je pense que ça commence aujourd'hui, non? Le couvre-feu qui est poussé à 7h? 19h, voilà, donc vous avez le temps de rentrer. Mais si vous voulez profiter un petit peu du soleil. Alors, un petit mot avant de vous quitter. Pour le week-end de la Gare d'Honneur, pour ceux qui ont reçu le mail rappelant cette rencontre d'aujourd'hui. Il est donc maintenu, mais en respectant les mesures sanitaires. Ça veut dire que je peux dans la chapelle accueillir, on va dire, une trentaine de personnes, mais pas plus. Donc, comme déjà l'année dernière, il n'avait pas pu avoir lieu à cause du... Ben, là, on était confinés. Donc, j'ai regardé mon lexique et j'ai donc appelé tous ceux qui auraient dû officialiser leur engagement et je privilégie du coup la présence à ces personnes. Donc pour l'instant, en inscription de personnes qui doivent s'engager officiellement, je suis autour de 12-13. Donc il restera bien sûr des places libres. Donc le week-end commence à 15h le samedi par la conférence. À cause des horaires, mais bon, là c'est vrai que c'est maintenant 19h, donc il est possible qu'on fasse l'heure sainte. Au début j'étais partie sur une demi-heure parce que c'était à 18h, mais maintenant c'est à 19h. On fera l'heure sainte, les engagements, la consécration, et puis on dépose le Saint-Sacrement, et puis les sœurs chanteront l'office toutes seules. Le lendemain, il n'y a rien de changé, c'est la Sainte-Messe à 9h30, au cours de laquelle chacun renouvelle son engagement. Mais là aussi, la chapelle ne peut pas être remplie comme par le passé, avec plein à craquer, comme on a pu connaître. Alors, le week-end, on va dire, va être enregistré, et puis sera mis sur le site de la communauté pour que vous puissiez au moins suivre l'enseignement et puis vous unir justement à la messe, à l'homélie, etc. Mais là où vous vivrez la messe, au moment de la communion, après avoir reçu Jésus Eucharistie, renouvelez dans votre cœur votre engagement. Hein. Ça ne se fait pas uniquement dans la chapelle de la Visitation. Hein. Alors c'est sûr, ça me peine, hein, je veux dire, ça me peine de ne pas pouvoir rassembler la Gare d'Honneur, de faire connaître la Gare d'Honneur, parce que c'était l'occasion, beaucoup venaient à ce week-end et connaissaient à travers ce week-end la Gare d'Honneur. Bon, Je crois qu'il faut qu'on mette une, on se confie à la divine providence qui conduit tout. Donc c'est voilà, c'est ça qui nous est demandé de vivre. Bon, on verra bien l'année prochaine qu'est-ce qui sera donné. Mais voilà, c'est je pense que notre sacrifice, en tout cas le mien, sera offert pour que les fruits, moi je veux croire en tout cas, que chacun reçoive devant là où il sera pendant le week-end, parce que tout le monde ne pourra pas y assister, eh bien une grâce de force, de renouvellement pour son engagement. Parce que je sais bien que ce week-end était nécessaire à nous relancer dans notre engagement de la garde d'honneur, quoi. Surtout que bon voilà, l'abbé Lucchesi, c'est quelqu'un qui est, enfin moi je le connais pas, mais je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, voilà, c'est quelqu'un qui est zélé hein, dans son amour du Sacré-Cœur. Donc ça nous aurait fait tous du bien, quoi. Donc voilà. Donc ceux qui veulent se risquer à venir donc le samedi 10 et dimanche 11 à 15h, voilà, il y aura sûrement des places de libre. Ben, je crois qu'il faut là aussi la divine providence conduisant tout. Faut pas hésiter, quoi. Voilà, faut pas hésiter. Je confie à votre prière, sinon toutes les personnes qui souffrent dans leur âme et dans leur corps et qui sont, comment dirais-je, garde d'honneur, on les confie à l'intercession de Saint Joseph, qu'on va prier avec une prière de notre Saint Fondateur. Et puis voilà. Et puis prenez aussi dans votre prière les 15 jours que là on avance résolument vers Jérusalem pour vivre la passion avec Jésus. On est tous en communion spirituelle à 16h vendredi saint au pied de la croix où le Seigneur recevra le coup de lance pour constater qu'il est bien mort. Et là, normalement, on se glisse sous la plaie de Jésus pour recevoir le sang précieux. Et là aussi, c'est encore une occasion de se renouveler dans notre amour du Sacré-Cœur. Donc voilà, de confier les fruits, je dirais, dans ces 15 jours, les fruits du week-end, et surtout l'abbé Lucchesi qui ne doit pas ménager sa peine dans son ministère, parce que si nous on trouve que c'est dur de suivre Jésus, que aujourd'hui le monde est dur et le monde est violent, eh bien moi j'entends beaucoup de prêtres me dire que c'est dur aussi. Hein, tout le monde ressent que c'est dur de rejoindre les âmes. Donc voilà. Et rien ne peut se faire sans la prière, sans le sacrifice offert par amour. D'accord ? Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Mère bien-aimée du bien-aimé, ô Époux bien-aimé de la bien-aimée, je vous conjure par ce cœur de votre doux Jésus, qui est le roi des cœurs, que les vôtres adorent, animez nos âmes de votre toute-puissante faveur envers le Saint-Esprit, afin que nous immolions, messuies, en l'Holocauste toutes nos affections à sa divine bonté, pour vivre, mourir et revivre à jamais, émis les flammes de ce céleste feu que notre Seigneur, votre Fils, a tant désiré d'allumer en nos cœurs, que pour cela, il ne cessa de travailler et soupirer jusqu'à la mort et la mort de la croix. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, Saint-François d'Assise et Sainte-Marguerite-Marie, Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini, Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes, Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernou. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bon retour et belle semaine sainte.